Il est 22h, vous écoutez Europe 1. C'est l'heure du journal avec Sophie Tussaud.
C'était génial, ça a été une belle cérémonie. On a vraiment vécu le moment à fond. Tout le monde a eu les étoiles plein les yeux et c'est le principal.
C'est parti pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Loin des fastes des éditions précédentes et en pleine pandémie, le Japon a donné le coup d'envoi de ces JO hors normes qui ont bien failli ne jamais avoir lieu. Jean-Yves Lafesse nous a quitté, l'humoriste connu pour ses caméras cachées et ses canulars téléphoniques comme ceux qui nous ont fait tant rire sur Europe 1. Nous le réentendrons dans ce journal. La situation épidémique s'aggrave de jour en jour. Le nombre de nouveaux cas de contamination ne cesse d'augmenter. Santé publique France 5 inquiète à nouveau, le nombre d'hospitalisations grimpe en flèche. Et puis ils sont les stars du zoo de Beauval, le couple de pandas prêtés par la Chine. On savait depuis le début de la semaine que la femelle était enceinte. Une deuxième échographie a révélé une surprise, on vous dit tout dans le journal. Le temps, la météo de Marlène Duret à suivre dans un instant, qui nous parlera des orages.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La flamme olympique brûle désormais à Tokyo et elle restera allumée jusqu'au 8 août. Le coup d'envoi officiel des 32e Olympiades a été donné cet après-midi. Après un report d'un an et plusieurs valses hésitations en raison de la pandémie, ces Jeux, pas comme les autres, vont bel et bien avoir lieu. Ils ont été inaugurés lors d'une cérémonie en présence de l'empereur du Japon, Naruhito Simon Rubin.
Une cérémonie assez longue, hein, 3h50, une flamme allumée à la fin au sommet d'un promontoire iridescent par la star du tennis, la japonaise Naomi Osaka. Vous savez, c'est cette championne qui, lors du dernier Roland-Garros, avait voulu parler de la pression que ressentaient les champions, de la santé mentale, de la fragilité psychologique des sportifs et qui avait pour ça été très chahutée par les médias et l'opinion avant de quitter le tournoi. Alors une cérémonie qui a donc vu les délégations défiler dans un stade vide avec pour bande sonore des musiques issues des jeux vidéo japonais, Mario, Sonic et compagnie, hein, le Japon pays du jeu vidéo. Petit clin d'œil culturel et en tête de la délégation française, le porte-drapeau, l'un des deux porte-drapeaux, Samir Aït Saïd.
C'était génial, ça a été une belle cérémonie. On a vraiment vécu le moment à fond. On s'est fait plaisir, on a chanté haut et fort la Marseillaise. Et voilà, tout le monde a pris du plaisir et tout le monde a eu des étoiles dans les yeux et c'est le principal.
Et sans public dans le stade, eh bien ça a laissé l'opportunité aux athlètes de discuter entre délégations et parfois de se chambrer un peu. Écoutez Clarisse Abgenienou, l'autre porte-drapeau, qui nous raconte que la rivalité avec les États-Unis a déjà bien commencé.
Bah, ils aiment bien chanter les USA, USA. Et on a fait un bouh, et après on a continué. Nous sommes les Français et nous allons gagner. Donc voilà, on a bien profité et je pense qu'ils se sont dit, la France, c'est petit, mais ils sont grands. Voilà, on leur a fait peur.
On leur a fait peur et ces porte-drapeaux qu'on retrouvera très vite au bord des terrains parce qu'ils vont encourager tous les bleus qui sont en lice. Et puis Samir Aït Saïd, lui, sera dès cette nuit engagé en gymnastique dans l'épreuve des anneaux.
Simon Rubin, et on va bien sûr suivre les athlètes français durant ces Olympiades et durant les Jeux Olympiques. N'oubliez pas votre rendez-vous quotidien sur Europe 1, le Tokyo Club, dès demain de 13h à 14h.
Bonjour madame, c'est les dépanneuses plomberies.
Oui.
Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil.
Madame Ledoux, son personnage fétiche européen est très attristé par la disparition de Jean-Yves Lafesse, l'humoriste qui a fait rire des générations de Français avec ses caméras cachées et ses canulars téléphoniques. Décédé hier à Vannes à l'âge de 64 ans, il souffrait de la maladie de Charcot qui lui avait été diagnostiquée l'année dernière. Jean-Yves Lafesse avait exercé ses talents de trublion ici à Europe 1 dans les années 90, comme ce sketch du 43e étage sans ascenseur où Madame Ledoux justement appelle le plombier.
Alors c'est très simple, hein. Quand il arrive au 38e étage, il change d'escalier. Il prend l'escalier C qui descend jusqu'au 5e. Hein.
Et monter 5 étages?
Non, descendre.
Comment on descend jusqu'au 5e?
Oui, parce qu'ils ont muré après.
Oui, alors il faut descendre jusqu'au 5e étage?
Voilà.
Une fois qu'on est monté au 38e?
Oui, c'est ça, mais c'est pas par le même escalier. Hein.
Non, non, mais attendez, on descend jusqu'au 5e étage?
Oui, alors faut pas qu'il se trompe parce que c'est dans le noir.
C'est dans le noir?
Ah oui, il n'y a pas de lumière. Hein.
Comment il n'y a pas de lumière hein? Putain, il faut que j'appelle Belmondo, moi. Hein? Ça irait plus vite avec un hélicoptère et qu'il me jette directement dans votre fenêtre. Mais alors, à chaque fois que vous montez 38, vous descendez 33 et vous remontez 40.
Voilà.
43.
Oui, c'est ça.
Ça fait 87 ans, ils ont tout ça.
81.
81. C'est pas possible.
Alors, que je vous dise comment faire quand il arrive.
Hein. Oui.
Quand il est en bas, il y a un interphone.
Oui.
Il sonne et je descends lui ouvrir.
Pourquoi il marche pas l'interphone?
Mais non.
Bon, alors vous faites une blague qui vous aide.
C'est une blague pour Europe 1.
Pour un rabbin?
Non, pas pour un rabbin.
Pour qui?
Pour Europe 1.
Pour Europe 1?
C'est vrai que c'est irrésistible. Le sketch du 43e sans ascenseur sur Europe 1, Jean-Yves Lafesse, dont l'humour était taquin et souvent grivois, toujours libre et impertinent, Angèle Châtelier.
Oui, et Jean-Yves Lafesse était aussi l'audace, celle de quitter sa terre natale, le Morbihan, pour partir faire le tour du monde avant même d'avoir passé le bac. Irrévérencieux, aussi, il a fait ses premières armes dans la radio libre Carbone 14 au début des années 80, avant d'être à Radio Nova, et surtout ici, à Europe 1. Que ce soit ses caméras cachées, ses micro-trottoirs ou ses canulars téléphoniques, Jean-Yves Lafesse était avant tout l'humour. Parfois potage, souvent provocateur. Son métier, disait-il à Europe 1 en 2017, prendre le pouls du monde, finalement.
L'idée, c'est de trouver. Trouver quoi? Bah, trouver ce qu'on a en nous. Le travail du comique, c'est d'aller prospecter au plus profond de nous-mêmes, sincèrement, en profondeur, dans tout ce qu'on a, notre matériel culturel, notre sensibilité et tout, et ressortir, traduire un peu ce qui se passe dans la société, ou pas, être à côté, décalé ou autre.
Il était aussi homme de scène. Son dernier spectacle s'appelait Détraqué. Pour Pierre Lescure, Jean-Yves Lafesse était autant poète que désopilant. Des mots qu'il a tweetés à l'annonce de son décès, survenu à Vannes. Ironie du sort, comme nom de ville pour celui dont la vie consistait avant tout à faire des blagues.
Angèle Châtelier, notez que dimanche, Europe 1 rendra toute la journée hommage à Jean-Yves Lafesse.
Europe 1, le journal de la nuit.
Sophie Tussaud.
Également dans l'actualité, le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire qui est désormais au Sénat après avoir été adopté au petit matin par les députés. Les sénateurs ont donné un premier feu vert en commission, mais ont conditionné le texte au rétablissement de l'état d'urgence sanitaire. Et dans ce projet de loi figure la possibilité de licencier des travailleurs d'établissements recevant du public qui refuseraient d'obtenir un pass sanitaire. Plusieurs organisations syndicales dénoncent un dérapage. Écoutez François Omeril, président de la CFE-CGC, le syndicat des cadres.
Le gouvernement n'assume pas les conséquences de ses décisions. Soit il rend le vaccin obligatoire et il en assume les conséquences, soit il ne le rend pas obligatoire. Et à ce moment-là, ce moyen de licenciement pour non-présentation du pass est définitivement inacceptable. C'est ce que j'appelle, moi, une transgression ou un dérapage. Il n'est pas acceptable de mettre au même niveau le fait de pouvoir travailler ou de ne plus pouvoir travailler comme le fait de ne pas pouvoir rentrer dans un restaurant ou de ne pas pouvoir rentrer dans un cinéma. Là, on considère que ça va beaucoup trop loin. C'est ça qui vraiment pose problème. Point sur lequel j'aurais aimé, pour le coup, qu'on ait une forme de concertation préalable avec le gouvernement, ce qui n'a pas eu lieu.
François Omeril, président de la CFE-CGC, avec Clément Le Saffre pour Europe 1. Pendant que le Parlement étudie toutes les mesures pour tenter de freiner la progression de l'épidémie, le nombre de nouveaux cas de contamination double de semaine en semaine en raison du variant Delta. Le Conseil scientifique tire le signal d'alarme. Nous sommes aujourd'hui à 22 000 cas par jour. Dans une semaine, nous serons à 50 000 et 150 000 à la mi-août. Virginie Riva, au-delà du taux d'incidence, Santé publique s'inquiète également car les hospitalisations augmentent, elles aussi très rapidement.
Oui, et c'est une première. Depuis la mi-avril, les hospitalisations ont augmenté de plus de 55% sur tout le territoire et de 35% en ce qui concerne l'entrée en réanimation. Au 20 juillet, on comptait près de 7000 patients hospitalisés, 900 en soins critiques. Les services de réanimation s'attendent à une arrivée massive de patients à partir de la mi-août, mais déjà, il y a quelques admissions, notamment dans le service du professeur Djilali Annane, chef du service de réanimation à l'hôpital Poincaré de Garches.
On a eu nos premiers cas depuis le début juillet, déjà. Deux exemples qui me viennent en tête, un homme de 39 ans sans antécédent particulier non vacciné, qui malheureusement a fait une forme sévère, et puis un autre homme de 53 ans qui n'avait eu qu'une seule injection de son vaccin, qui a été contaminé et malheureusement également fait une forme sévère. Heureusement, tous les deux ont pu quitter la réanimation et sont en convalescence maintenant.
Les entrées à l'hôpital, c'est le critère qui va être le plus surveillé dans les semaines à venir. Mais déjà, le phénomène est particulièrement inquiétant en Occitanie, où les nouvelles hospitalisations ont été multipliées par 3 en 15 jours, mais aussi en Martinique, où elles ont doublé en une semaine.
Virginie Riva, et notez concernant la vaccination que l'Agence européenne des médicaments approuve l'utilisation des doses Moderna pour les 12-17 ans. Ce vaccin devient donc le deuxième à être autorisé pour les adolescents au sein de l'Union européenne après le Pfizer-BioNTech. Et alors que l'heure est à un coup d'accélérateur sur la vaccination, il y a cette affaire à Grenoble. Une employée du vaccinodrome est soupçonnée d'avoir établi de faux certificats moyennant de l'argent. La femme de 30 ans a passé 48 heures en garde à vue et a été mise en examen ce soir. Marion Dubreuil.
Oui, car cette jeune femme occupe un poste stratégique dans le plus grand centre de vaccination de Grenoble. 4700 injections par jour. C'est elle qui tamponne les attestations de vaccination des patients. Après chaque dose, ce sont ces attestations qui permettent d'obtenir un QR code et donc un pass sanitaire. Son comportement avait inquiété en interne et la police avait été alertée. À leur première visite, les policiers n'ont rien constaté d'anormal, mais ils sont revenus mercredi après-midi et ils ont surpris la trentenaire en train de valider de fausses attestations. Entre-temps, elle avait effacé une grande partie des fichiers sur son téléphone portable, mais un spécialiste cyber est parvenu à retrouver des centaines de copies de cartes vitales ainsi que des messages de transactions. 350 euros le faux pass sanitaire. Les policiers ont également retrouvé de l'argent liquide à son domicile et un certificat vaccinal qui n'était pas à son nom.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Beaucoup de monde sur la route des vacances ce week-end. Beaucoup aujourd'hui étaient classés orange au niveau national dans le sens des départs. Demain sera rouge. Alors forcément, ceux qui rentrent profitent des derniers instants et puis ceux qui arrivent se délectent, comme à l'île de Ré où vous vous trouvez pour Europe 1. Laura Taouchanoff.
Je vous emmène sur une petite plage pas très fréquentée. Elle est surtout réputée pour ses vagues. Et cet après-midi, il y a seulement 3 enfants dans l'eau, vu le vent.
Wouh ! C'est quoi ton prénom ?
Clara.
Ça va, elle est pas trop fraîche, là ?
Non, ça va, en vrai.
C'est vrai ?
On a du mal à se mettre, mais là, c'est bizarre.
Bon, et toi, t'en es où dans tes vacances ? C'est la fin ? C'est le début ?
C'est le début, on est là pour 3 semaines, là. On vient d'arriver mardi.
Bah, profitez bien, je vais embêter tes parents. Comment vous allez ?
Bon, ça va. Voilà, pas vacciné, tout va bien. Moi, je viens ici depuis que j'ai 9 ans, alors je fais juste mes vacances tranquillement. Je me prends pas la tête. Le programme, ça va être la mer, ça va être les balades en ville.
Faut peut-être pas trop donner les charmes de l'île de Ré, sinon tout le monde va débarquer.
Honnêtement, tout le monde peut venir ici. Hein. C'est convivial. Plus il y a de monde, plus on s'amuse.
Et vous avez un message pour ceux qui bossent et qui n'ont pas la chance d'être là ?
Bah, bon courage. Bon courage et votre tour viendra.
Pour Nicole et ses petits-enfants, en revanche, c'est fini les vacances. C'est l'heure de ranger le cerf-volant.
Voilà, les enfants voulaient venir une dernière fois. Et après, on ira manger des glaces. Ça nous pompe le moral quand même, les gestes barrières, le masque. On a choisi une plage assez désertique, donc on est bien.
Là, il y a plus de galets que de personnes, ça c'est
oui,
sûr.
Ça, c'est l'inconvénient de cette plage. Il faut être chaussé un peu confortablement. On a bien profité de la plage. Tout va bien, on est satisfait.
Dès demain matin, beaucoup de vacanciers franchiront le pont de l'île de Ré pour profiter de ces paysages.
Alors, à Taouchanoff, à l'île de Ré pour Europe 1. On prend la direction du zoo de Beauval à présent, où un heureux événement est en préparation. 4 ans après son premier petit, la femelle panda Ruan Ruan est à nouveau enceinte. Et ce n'est pas un bébé qui verra le jour, mais deux. Delphine Delors est la directrice générale associée du zoo de Beauval et forcément, elle exulte avec la bonne nouvelle.
Quelle excitation, quelle joie, on pouvait s'y attendre. Les grossesses peuvent être gémellaires, donc avoir 2 bébés dans 50% des cas. Mais on n'avait pas réussi à faire l'échographie de la seconde corne de l'utérus. Et du coup, là, on a fait une deuxième échographie aujourd'hui. Et là, d'un coup, on me dit à travers la vitre, ça y est, il y en a deux. Et puis après, gros suspense, non, en fait, on n'est pas très, très sûr. Non, attendez, on n'est pas sûr. Et puis finalement, si, ça y est, il y en a deux. Ça y est, on a 2 bébés pandas. La mise bas des 2 bébés, la mise bas de Juan Juan aura lieu entre vendredi et lundi prochain. On espère surtout que les 2 bébés seront viables, puisque la première fois, nous avions déjà eu des jumeaux et le premier bébé était mort. Mais là, on va être évidemment en attente toute cette semaine et auprès de Juan Juan avec joie et bonheur. Je pense que là, dans tout Beauval, tous les gens que je croise ont un sourire jusqu'aux oreilles en disant ça y est, il y en a deux.
Delphine Delors, directrice générale associée au zoo de Beauval avec Johanna Chabas pour Europe 1. On voit à présent le temps de demain. 17 départements de la Bretagne, du centre et de Picardie sont en vigilance orange aux orages, Marlène Duret.
Et ces orages s'annoncent costauds, Sophie, en particulier du Massif central à la Bourgogne, où ils vont se renforcer au fil des heures. Des phénomènes violents, des cumuls d'eau conséquents, des chutes de grêle et de bonnes bourrasques de vent sont donc à craindre. Ils arriveront en Bourgogne plutôt en deuxième partie de nuit. Les orages, toujours présents au petit matin, sur un axe Auvergne-Rhône-Alpes, Lorraine-Champagne. Après une accalmie, de nouveaux orages circuleront demain après-midi des Cévennes au quart nord-est et au centre-est, mais aussi le long des frontières du nord, avec encore pas mal d'averses orageuses, tandis que de nouvelles pluies reviendront en Bretagne. Des pluies soutenues hein, sous un ciel couvert le matin, devenant plus instables en journée et gagnant progressivement le quart nord-ouest du pays. Les températures maximales vont baisser partout cette fois, avec 19 à 23 degrés en Bretagne et dans le Cotentin, contre 32 à 35 des plaines du Roussillon à la Provence et en Corse. Il fera 26 degrés à Paris.
Merci Marlène Duret. Et on jette à présent un coup d'œil sur les unes de vos journaux demain. Antipas, ça vaxe ou ça casse, titre Libération. La convergence entre les anti-vaccinations irréductibles et les opposants au pass sanitaire qui manifestent ce samedi inquiète l'exécutif engagé dans sa course contre la montre face au rebond fulgurant de l'épidémie. Le populaire du centre pointe des dysfonctionnements dans les services locaux hospitaliers. Allô, le CHU de Limoges. Des médecins généralistes de l'Ubersac en Corrèze ont écrit au directeur du CHU pour dénoncer les difficultés qu'ils ont à contacter leurs confrères hospitaliers. Ils réclament un accès plus simple. Un souffle sur le Figaro, celui des éoliennes qui provoquent une prolifération d'exaspération sur terre comme en mer. Le gouvernement poursuit ses objectifs et multiplie les parcs éoliens malgré la généralisation des oppositions locales, nationales et européennes. Et puis, Ouest France propose un dossier sur les vacances au camping à l'heure du pass sanitaire et c'est à lire en page 5.